chers frères, ce dialogue entre Jésus et les disciples que nous voulons entendre est bien à sa place dans cette montée à Jérusalem. C'est une section de l'Évangile empreinte de gravité, car tous vont vers le lieu de la Passion. Ce passage nous renseigne notamment sur l'état d'esprit des disciples et la figure de Jésus face à ses missions. Alors nous observons d'abord les disciples. Saint Marc nous montre leur mentalité. À la différence de Matthieu et de Luc, plus soucieux de montrer les apôtres sous un jour agréable, ils ne craignent pas de montrer leurs limites humaines, leurs défauts. Vis-à-vis de Jésus, ils s'illignent ici ou là leur agacement ou leur impertinence. La question posée par Jacques et Jean est particulièrement évocatrice. Elle est adoucie dans nos traductions. Nous voudrions, mais le texte dit nous voulons. Et la Vulgate latine a bien gardé nous voulons. Maître, nous voulons que tu nous accordes ce que nous te demandons. C'est une exigence impertinente, évidemment. Ce n'est pas seulement un souhait. Alors, il nous faut comprendre cette mentalité qui n'est pas entrée encore dans le mystère de Jésus. Ils sentent que leur maître va bientôt les quitter pour la gloire céleste. Ils veulent s'assurer de bonne place. À plusieurs reprises, en effet, notamment à la Transfiguration, Jacques et Jean ont été choisis avec Pierre pour être des confidents privilégiés. Mais dans la gloire, Pierre ne sera-t-il pas le mieux placé? Or, les deux frères veulent être tout près de Jésus. C'est une requête qui paraît à première vue bien légitime, mais en fait qui témoigne d'une ambition humaine, disons même puérile, tant elle est loin de l'enseignement de Jésus. Ils persévèrent dans leur exigence en disant qu'ils sont prêts à l'épreuve de la souffrance. Pouvez-vous boire ma coupe? Oui, nous le pouvons. Mais Jésus ne peut entrer dans cette proposition de marchandage. Les places dans la gloire sont attribuées par le Père. Ce n'est pas à moi de l'accorder. La vraie réponse sera un appel à l'imitation de Jésus. Quant aux 10 autres, ils font preuve de jalousie. Ils se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Devant cette fragilité des disciples, lents à comprendre le sens profond de la mission de salut de leur maître, celui-ci rappelle son mystère et invite chacun à le comprendre et à l'imiter. Alors nous contemplons maintenant Jésus, serviteur des hommes. La contre-question aux deux disciples montre à quel point Jésus est rempli de la perspective prochaine de sa passion. Elle est la coupe qu'il doit boire, allusion à la coupe enivrante qu'on donnait parfois aux condamnés. C'est l'image de la passion, de la souffrance. Elle est le baptême, c'est-à-dire cette plongée dans l'épreuve. Elle est par excellence le service qu'il vient donner aux hommes. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le don de sa vie dans la passion est le service qu'il rend aux hommes en les arrachant au mal. Il leur donne ainsi la preuve de son amour infini, puisé au cœur du Père. Cette déclaration solennelle est la vraie réponse donnée aux disciples. À suivre l'exemple de leur maître dans ce don gratuit de soi-même, il ne s'agit plus là d'ambition terrestre. Par là, le disciple devenu apôtre se démarque profondément des attitudes trop humaines de ceux qui, dans le monde, exercent une responsabilité vis-à-vis de leurs frères, toujours tentés d'autoritarisme, de rechercher leur propre intérêt, ou de vantardise sous toutes ses formes. Les grands font subir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Et nous retrouvons le paradoxe du tout petit que Dieu seul peut élever. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. De cette scène découlent pour les chrétiens de tous les temps de précieux enseignements. Négativement, c'est l'appel à renoncer à toute forme d'ambition égoïste, d'arrivisme, de désir d'être superficiellement reconnu, estimé pour des raisons extérieures, trop humaines. Ainsi Jésus dénonce-t-il par ailleurs l'attitude fréquente des pharisiens qui veulent être remarqués des hommes, recherchent les premières places dans les synagogues, les salutations dans les places publiques. C'est ensuite, positivement et surtout, l'enseignement, un appel à suivre, à imiter Jésus, humble serviteur de ses frères, dans l'amour. Car l'amour chrétien se traduit notamment par le service. Nous avons de multiples occasions de servir au sein de nos familles, de notre profession, dans les innombrables rencontres avec nos frères. Servir comme Jésus, c'est donner son temps, donner sa vie pour procurer le bonheur des autres et finalement les aider par notre exemple à se rapprocher toujours plus de Dieu. Nous vivons dans un monde largement laïcisé, où la soif de Dieu manque, où se développe une véritable anorexie spirituelle. À nous de montrer notre bonheur d'être enfants de Dieu, disciples de Jésus, et de servir toujours avec une vraie charité. Le service devra toujours être humble. L'appel s'adresse notamment à ceux qui exercent des responsabilités. Depuis des siècles, le Saint-Père se fait un devoir et un honneur de se présenter comme le serviteur des serviteurs de Dieu. À tous ceux clercs et laïcs qui ont une fonction ou un engagement dans l'Église, il appartient de servir humblement. L'humilité étant une des composantes de la charité. Quant aux responsables de la vie sociale, dans tel ou tel de ses aspects, ils ont grand intérêt, et c'est à nous de leur suggérer, quand nous le pouvons, de s'inspirer de cette mentalité évangélique, seule capable de procurer le bien commun. Loin de nous diminuer, le service nous permet de grandir avec la grâce de Dieu. Servir Dieu, c'est régner, nous dit la liturgie. Et puisque le service est l'exercice même de la charité, rappelons-nous ce que dit saint Paul dans cette belle hymne à la charité que nous aimons relire. L'amour prend patience, l'amour ne jalouse pas, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il supporte tout. L'amour n'est jamais en défaut. Au service de nos frères, soyons des passionnés d'une charité humble et rayonnante. Amen.